Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui sur cette première table ronde de l'ACER, la partie biodiversité du Salon des maires, biodiversité et nature. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin pour parler d'un sujet sous un angle un peu innovant, celui de la décarbonation, des modalités conjuguées pour faire en sorte qu'on puisse garder un lieu dans les villes propice à la biodiversité, mais aussi efficace pour rendre des services aux habitants. Vous êtes élu, vous travaillez dans les collectivités locales, vous savez combien, quelles que soient nos ambitions écologiques, il est nécessaire de pouvoir arriver à conjuguer et puis l'efficacité, parce que bien souvent, les administrés viennent vous voir avec des demandes contradictoires, à la fois de préserver la planète et puis aussi d'avoir accès à un certain nombre de services. On y est tous soumis. Donc aujourd'hui, on a voulu faire une table ronde un peu différente, pas pour convaincu ou que vous êtes membre du réseau des écomaires, mais en tout cas pour vous donner quelques pistes de travail. Alors je suis ici aujourd'hui avec trois regards différents, trois interlocuteurs. D'abord Jean-Pierre Bouquet, qui est le président des écomaires, qui dirige notre réseau de près de 3000 collectivités locales en France, hexagonale, en territoire ultramarin, et puis également un réseau de villes avec qui on coopère en Afrique francophone. Vous allez, monsieur le maire, pouvoir nous éclairer sur la logistique. Et puis, je suis également là avec monsieur le maire de Sainte-Anne. Merci d'avoir été avec nous, d'être avec nous ce matin. On essaie toujours de faire en sorte aux écomaires d'avoir une pluralité de voix, territoire très urbain et très petite commune, territoire de la France hexagonale et territoire ultramarin, parce qu'on cherche tous des solutions communes et qui répondent souvent à des obligations réglementaires communes. Et puis on a fait le choix d'avoir également un regard d'expert pour nous élus, de définir toutes les solutions. On a évidemment besoin de s'appuyer sur des acteurs du service privé, des acteurs qui nous accompagnent sur nos territoires. Et on a la chance, et c'est vraiment une chance, d'avoir aujourd'hui avec nous Olivier Poncelet, qui est directeur général de l'Union TLF. Vous allez nous faire aussi à ça, le Salon des maires, de pouvoir avoir une présentation et peut-être donner des idées d'autres perspectives sur les territoires. Et puis, vous avez travaillé avec un certain nombre d'acteurs de terrain sur des solutions, des propositions pour alors les municipales, parce qu'on est tous dans ce cadre aujourd'hui avec de notre réélection, mais en tout cas l'idée aussi de porter de nouvelles propositions pour le prochain mandat, trouver de nouvelles solutions. Donc merci d'avoir pris le temps de venir au Salon des maires. Je commence peut-être par monsieur Bouquet, Jean-Pierre Bouquet. Donc vous êtes maire de Vitry-le-François, président de l'association les écomaires. Vous êtes engagé dans des politiques urbaines de reconquête d'espaces naturels, de réduction de la consommation énergétique. Vitry-le-François est connu pour ses problématiques et vous conjuguez à Vitry-le-François un modèle d'adaptation climatique. Première question, comment vous arrivez, qui sera une question d'ouverture, comment vous arrivez à concilier les obligations, celles de maire public, avec cette volonté de préserver la nature? Et puis, est-ce que vous constatez des difficultés dans la mise en œuvre?
Bonjour à toutes et à tous. Je salue les maires de Sainte-Anne, le directeur, l'ensemble de l'assistance. Écoutez, d'abord, bienvenue ici sur ce forum. On va essayer des solutions, ça se saurait, hein, je ne serais pas là sinon. Mais j'ai une conviction, c'est qu'il faut faire revenir la nature en ville. Et donc, ça commence par ça. Quand on est face à un problème de résorption de friches industrielles ou de conversion d'un quartier dans le cadre d'une opération en rue ou la reconfiguration d'un îlot, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, pour adapter le territoire, pour faire en sorte que, eh bien, sur ce territoire, dans 30 ans, on puisse y vivre. Vous avez écrit, Madame la Directrice, un ouvrage 30 degrés. Bien, c'est la question qu'on se pose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retire l'asphalte, là où ce n'est pas nécessaire. Bon, on y met des plantes qui nécessitent pas trop d'entretien, enfin de l'entretien, mais qui puissent se développer. Parce qu'il faut penser également pas à faire d'un espace qu'on a désimperméabilisé une pelouse comme à Versailles. On cherche à en faire un endroit qui va permettre d'infiltrer les eaux de pluie, les eaux de surface. On essaie, là où c'est possible, dit implanter. Alors, quand on fait des implantations de haies, par exemple, bien, on fait des implantations de haies mellifères, de préférence, avec des espèces végétales locales qui vont s'adapter parce qu'elles vont permettre à la microfaune, aux abeilles, de se développer, d'avoir de la nourriture. Puis finalement, s'il y a... Donc, on regarde également les espèces d'arbres. On s'est inspiré d'ailleurs de ce que faisait Marseille, hein, parce que le climat va évoluer. Donc, évolue, c'est pas qu'il va évoluer, évolue. Et on se dit, dans 30 ans, quelles sont les espèces d'arbres qui résisteront? Parce que si aujourd'hui, on fait revenir, nos arbres sont morts, bah, finalement, c'est un coup pour rien. Donc, il faut anticiper et aller de l'avant. Voilà ce qu'on fait concrètement. Et puis, nous, on a des problématiques particulières, mais systématiquement, on essaie de réinfecter systématiquement. Chaque fois qu'on fait des travaux de voirie, il n'y a plus un litre d'eau de surface, donc d'eau de pluie, y compris celle des égouts des toits, qui va dans la nappe. On réinfiltre systématiquement, donc on fait des fossés. Voilà, on a des adaptations. Finalement, un objectif, c'est des solutions de nature. Et donc, privilégier le retour de la nature, ça peut être quelque part quelque chose d'économe. Vous voyez, quand on marche en ville, on a envie de marcher sur des trottoirs à peu près corrects, enfin, demande qui n'est pas. Eh bien, nous, on a, comme partout, des travaux sur les réseaux qui sont enfouis. Chaque fois que les réseaux sont enfouis, le délégataire doit participer à la remise en état des surfaces. Alors, on a négocié, alors ça a été assez long avec nos délégataires, versement en argent, et nous, on met des pavés. De manière à ce que les eaux sur ces trottoirs puissent s'infiltrer, et puis que ceux qui géreront dans 20 ans, 30 ans, la collectivité, ne se trouvent pas face à des difficultés innommables. Et donc, on dépose les pavés, on peut creuser, on remet les pavés, tout s'infiltre. Et donc là, également, dans des solutions urbaines qui sont demandées par les citoyens, on fait en sorte que les eaux, pour ce qui concerne... C'est un ensemble d'éléments comme ça, mais c'est systématique. La première question qu'on se pose, comment on fait pour faire revenir la nature en ville? Après, quand c'est dans les grands parcs, c'est autre chose. Hein, on plante des arbres, etc., etc. Et on essaie aussi, par exemple, de planter des arbres, mais il faut regarder si c'est des racines de manière à ce que ça ne vienne pas abîmer le corps de chaussée ou que ça soit compatible avec les équipements urbains qui sont demandés par la population, avec toutes ces utilités sans lesquelles on ne peut pas vivre.
Merci. Alors effectivement, on est tous convaincus de l'utilité aujourd'hui pour les questions d'adaptation, meilleure santé mentale et puis de ce besoin de confort visuel et de dépollution aussi, d'avoir plus de végétaux, plus de parcs, plus d'espace. C'est pas toujours facile parce que ça veut dire qu'il faut regagner aussi sur les routes, une demande aujourd'hui des habitants de plus en plus importante, de livraison de colis à domicile, d'acheminement jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'aux portes, jusqu'à sa porte. Donc, comment vous conjuguez le dialogue à Vitry-le-François pour faire en sorte d'avoir moins de...
D'abord, on évite justement, ça c'est une très bonne question parce que Vitry-le-François c'est une ville du milieu rural. Donc dans le milieu rural, quand on parle de mobilité, c'est la voiture. On peut tourner le problème comme on veut. La meilleure amélioration, c'est le véhicule électrique. Les transports en commun, quand il n'y a pas de densité de population, il n'y a personne dedans. Et donc, il faut déjà éviter de se prendre tous les automobilistes de front. Ça paraît un détail, mais s'ils ne sont pas de la ville, ils sont les environs, mais ils ont tous de la famille, ils sont tous en interaction. Et donc, si on les a remontés comme des coucous ou comme des pendules, évidemment, ça ne va pas aller. Donc, il y a tout un travail qui se fait de manière progressive. Donc, d'abord, nous, on évite de les exciter à coups de déclaration. On va faire ça, on va vous supprimer la route. Là, ici, on vous remet 40. C'est même pas qu'on évite, on ne le fait pas. Bon. C'est plus prudent. Et ça fonctionne. Et on y va par touches successives. Et alors, généralement, on fait des... Enfin, c'est pas généralement. Quand on fait des axes, on fait des améliorations, des axes, disons... très qualitatif, parce qu'on installe une piste cyclonnelle, pas un truc rikiki où on est en insécurité quand on est sur son vélo. On a un côté paysager qui est soigné, et les améliorations qu'on apporte étant qualitatives, elles sont forcément mieux reçues. Elles trouvent tout de suite par... Alors évidemment, quand on met sur les réseaux, on voit, il y a toujours les nostalgiques, les provocateurs, ceux qui n'aiment pas le maire ou la mairie, qui disent « oui, il n'y en a que pour les vélos, que pour ceci, que pour cela ». Mais ils sont assez rapidement séchés par une bonne partie de la population qui prend parti au faux fer, etc. Donc on essaie de surfer là-dessus. Mais on ne fait pas dans la provocation, mais on fait systématiquement, régulièrement, et on informe. On a désimperméabilisé ici, temps de surface. On a réduit les surfaces de temps. On travaille avec les services de secours. On a réduit, mais il faut que les véhicules de secours puissent passer. La grande échelle, elle peut passer. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez là? Donc, il y a toujours de la place pour circuler. Et puis, évidemment, il y a aussi, bah, il faut réguler. Donc, il y a le radar hein, pédagogique. Et puis, le radar de la police municipale qui, sur les axes, on se défoule, bah, fait son travail.
Alors, des outils de régulation, bah, ça fait partie des sujets de réflexion pour le prochain mandat. Je me tourne vers vous, auditeur, qui est particulièrement important pour les élus locaux, celui de la logistique, du transport. Alors, d'abord, il faudrait rappeler, parce que ça me semble important dans le dialogue, y compris avec les habitants, de rappeler que c'est un secteur qui porte plus de 2 millions d'emplois en France, non délocalisables, et derrière chaque plateforme multimodale, j'allais dire presque chaque demande de chaque citoyen, mais chaque entrepôt, chaque flotte, eh bien, il y a ce service qui est attendu par les habitants et qui crée de l'emploi et de la richesse économique. Vous êtes souvent... on le voit bien quand les habitants, parce qu'il y a des difficultés d'acheminement, ne reçoivent plus leurs colis. C'est comme quand il y a des grèves de poubelles, on entend très vite parler. Alors peut-être resituer un petit peu l'activité de TLF. Et puis, j'aimerais bien qu'on puisse échanger, notamment sur comment faire pour améliorer la logistique dans nos territoires, dans nos villes. Et puis peut-être avec des pistes, des solutions, notamment sur les documents d'urbanisme. Mais je vous laisse la parole peut-être pour présenter rapidement l'activité.
Merci pour votre invitation et merci à tous pour votre écoute sur un sujet qui effectivement est aussi vital qu'il est parfois méconnu. On est face à ce paradoxe souvent, pour reciter les vôtres, les flux logistiques, ça représente 10% des transports motorisés dans une ville, mais par contre ça conditionne 80% de la vie économique de la ville. Donc, il est très important d'avoir à l'esprit qu'on parle certes beaucoup de e-commerce, qui représente à peu près 15-20% des flux logistiques, mais la logistique, c'est d'abord et avant tout notre industrie, notre artisanat, notre commerce, le dynamisme à la fois de nos zones minées par la capacité de notre chaîne logistique à faire son travail. Et quel est son travail? C'est le fait d'approvisionner, de livrer au bon endroit, à la bonne heure, dans le bon état, de la manière la plus décarbonée possible à nos clients. Et quand on parle de nos clients, ils sont extrêmement divers. Ça peut être aussi bien que l'artisan qui a besoin de ses matières premières pour produire, l'usine qui a besoin ensuite d'exporter. La logistique aussi, on l'oublie parfois, est un facteur de rayonnement et de commerce international pour nos entreprises, qui est parfois conçu comme un tout monolithique et en réalité autant de cas d'usage qu'il y a de commandes de nos clients et derrière de missions qui sont vitales pour notre pays. Alors quel est le rôle de l'Union TLF et en quoi ça peut vous intéresser dans vos fonctions professionnelles? C'est d'accompagner les évolutions de notre secteur et évidemment les évolutions de notre secteur aujourd'hui elles sont historiques. Historique pourquoi? Parce que ça fait depuis la fin du 19e siècle que nos entreprises utilisaient les véhicules et aujourd'hui, en quelques années seulement, on se retrouve face à une évolution très forte d'une solution qui était vraiment le couteau suisse à un mixte énergétique où on va aller chercher la solution la plus décarbonée en fonction des usages du transporteur, par des biocarburants, le gaz, l'électrique, etc. On vit aussi une évolution des attentes de nos consommateurs. Vous êtes en première des attentes des consommateurs, vous êtes en première ligne pour le vivre. Et donc le rôle de notre organisation, c'est de trouver avec vous, avec au niveau de l'Europe, au niveau de l'État, mais aussi quelles sont les solutions qui permettent à nos adhérents de faire efficacement leur travail, mais en même temps de répondre à ces aspirations. Et donc c'est comment on concilie ces ambitions pour arriver fondamentalement à faire ce qui est notre responsabilité, c'est-à-dire approvisionner nos concitoyens, nos villes et nos entreprises. Et là, c'est 2000 entreprises de transport et de logistique. C'est 40 des 50 plus grandes entreprises du secteur. Donc, des noms comme Geodis, Steph, que vous devez vraisemblablement connaître et avec lesquels vous travaillez tous les jours. Nous avons aussi des délégations régionales de l'Union TLF qui sont présentes dans les territoires et qui échangent quotidiennement avec les responsables locaux. Et ça se passe dans un certain nombre de cénacles, de comités de gouvernance qui ont diverses formes. Il y a des chartes de logistique urbaine qui se mettent en place dans un certain nombre de villes, de la logistique régionale qui se met aussi en place. Et donc, ce que l'on préconise, et là on va arriver peut-être au niveau des propositions, c'est toujours plus d'être dans une logique de concertation et de dialogue. Parce que par nature, nos sujets sont parfois très opérationnels, très concrets, ils évoluent très vite. Et on a bien compris que les services ne peuvent pas connaître toutes les dimensions des métiers de nos adhérents. Et donc, nous, on se situe comme un rôle d'intermédiaire et on apporte ce service et on le propose ce service auprès des élus qui consiste à dire permettez-nous de dialoguer aux demandes de la part de vos concitoyens. Vous avez vous-même des ambitions dans le cadre de votre mandat. Travaillons ensemble les meilleures voies et moyens pour y arriver. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est quand on nous impose des choses qui ne prennent pas en compte les réalités de notre secteur.
On va revenir sur les propositions après, mais effectivement, moi, je retiens déjà une chose, c'est que quand de logistique d'aménagement, on a un interlocuteur en face avec lequel on peut dialoguer et concerter. Monsieur le maire, la voiture, le déplacement, bon, évidemment, tout le monde rêve d'aller à Sainte-Anne, mais enfin, c'est un gros sujet chez vous. Comment vous arrivez à conjuguer, en fait, cette demande sur votre territoire d'avoir toujours des véhicules et puis d'arriver quand même à constituer des lieux où on a de l'aménagement, de la préservation de la nature en ville. Vous avez été plusieurs fois reconnu pour ces travaux. Donc comment vous conjuguez en fait les deux demandes, le besoin de préservation et d'un autre côté les demandes croissantes et toujours croissantes d'utilisation de véhicules et d'acheminement?
Je suis le maire de Sainte-Anne en Guadeloupe. J'administre une ville plus de 26 000 habitants, située en Grande-Terre, pour ceux qui connaissent. Et bien évidemment, nous avons dans la biodiversité un champ très vaste pour... c'est important. Nous avons maintenant ce qu'on appelle les voitures électriques qui commencent à venir dans les Antilles et nous devons conjuguer avec tout cela. Certes, nous sommes dans une île et nous sommes très fragiles par rapport à l'écologie. Nous devons faire très attention par rapport à un certain nombre de véhicules, notamment le gasoil, l'essence, et nous devons aussi les protéger, notre nature. Parallèlement, nous devons mettre tout en œuvre pour aménager nos plages, parce que nous sommes une ville touristique. Par ailleurs, je suis président de l'Office de tourisme intercommunal de cette communauté d'agglomération. Et évidemment, nous faisons très attention pour circulent sur les plages, parce que les effets de serre, ça pose des problèmes et nous devons les protéger. C'est ainsi que nous mettons un périmètre à ne pas affranchir pour venir carrément sur la plage. Avant, effectivement, chacun venait avec sa voiture pratiquement en proximité de la mer pour passer des moments agréables, mais nous limitons sur le territoire. C'est évidemment ces accès.
Et ça a été bien accepté?
Ça a été accepté, mais vous savez, tout change. Quand vous venez, par exemple, chez nous, nous avons des situations particulières, notamment au week-end pascal. Nous avons un certain nombre d'habitants qui viennent carrément sous la plage pour passer un moment ensemble, pour manger leurs produits, leur colombo. Alors, c'est un colombo, c'est un mec comme nous connaissons très bien aux Antilles. Et donc, au début, c'était un peu difficile. Mais maintenant, ils acceptent ça parce que c'est normal. On ne peut pas mettre les roues dans l'eau au niveau de la mer. Mais nous avons aussi l'intérieur des terres. Sainte-Anne, c'est aussi le littoral, mais nous avons l'intérieur des terres. Et donc, nous devons faire très attention en termes d'écologie, en termes de plan local d'urbanisme, pour ne pas construire notre commune. Circulation au niveau de l'écologie.
Merci en tout cas pour cette approche. Effectivement, c'est parfois difficile de convaincre les habitants, les citoyens. Moi, j'ai des questions pour vous trois. C'est des pistes parce que je pense que c'est bien que les gens repartent des tables rondes dans les prochains mois, dans le prochain mandat. La première chose, c'est est-ce qu'on peut intégrer les questions de logistique, d'aménagement des places de livraison qui font souvent conflit dans les documents d'urbanisme, dans sa stratégie d'urbanisme? Deuxième chose, est-ce qu'il est utile, par exemple, d'avoir un PAL en charge de ces questions logistiques, parce qu'on voit que c'est un sujet vraiment montant dans la population, dans le partage de l'espace. Donc, est-ce que ça peut faciliter les choses? Et puis, j'ai une troisième question, parce qu'on a des élus aussi du milieu rural. J'en ai reconnu quelques-uns. Est-ce que parfois, on a besoin d'harmoniser des règles intercommunales ou est-ce que toutes les intercommunalités arrivent à bien se parler? Ou est-ce qu'on a parfois besoin ou on aurait besoin de dialoguer sur des règles intercommunales, notamment sur le secteur privé? Voilà, la question et les questions sont ouvertes à vous trois. Quelques propositions, quelques suggestions pour nos maires qui sont présents.
D'abord, pour revenir rapidement sur la mobilité. En intercommunalité, nous avons mis en place les pistes cyclables. C'est un moyen de fonctionner qui nous permet. Nous avons aussi sur notre territoire, c'est une particularité que nous avons sur cette communauté d'agglomération, c'est l'île de la Désirade, qui est détachée par rapport à la Grande Terre. C'est un bras de mer qui, en trois quarts d'heure, en bateau, peuvent se rendre. Nous devons aussi, pour mettre en évidence, je dirais, l'aménagement de nos places. Et ça, c'est très important, les places publiques. Et nous voulons aussi, les maires doivent s'engager, c'est notre programme que nous aurons pour le futur, ne pas laisser toujours, je dirais, des personnes qui puissent venir sur un territoire santé. Évidemment, nous avons ce qu'on appelle la télésurveillance pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Ce sont des sujets très importants que nous avons sur nos territoires.
Donc, réglementer l'espace public. Côté logistique, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que vous avez des propositions un peu concrètes? Je voudrais qu'on revienne sur ces idées concrètes parce que c'est bien de repartir avec des idées à mettre en œuvre dans le prochain mandat, hein, n'est-ce pas, monsieur le maire, ou qu'on va pouvoir proposer aux écomaires. Est-ce que vous avez deux, trois pistes concrètes?
Oui, alors on s'est permis de laisser sur vos chaises le livre blanc qu'on
a. C'est bien organisé, j'avais pas vu ça.
On a travaillé avec nos adhérents. Et puis, évidemment, on est en permanence en relation avec des élus locaux dans le cadre de différents groupes de travail ou comités, que ce soit au niveau national ou local. Et c'est à publier ces différentes propositions.
Alors, il y a quoi dans ces propositions concrètes, par exemple?
Votre point sur l'intégration de la logistique dans les documents d'urbanisme, il est assez clé. Pourquoi? Parce que il faut que cette intégration, elle se fasse nativement dès l'origine dans les plans d'urbanisme. On peut parfois penser à un parking pour véhicules particuliers pour que ça devienne un espace logistique. Donc, c'est important dès le démarrage dans les documents d'urbanisme d'avoir ce dialogue avec les professionnels pour identifier les zones stratégiques qui permettent d'avoir une logistique décarbonée qui permet qu'il soit efficace et efficient pour tout le monde.
En amont de l'aménagement, en fait, pas après, à la fin.
Voilà, on parlait à l'instant des places de stationnement. Là-dessus, une proposition, ça peut être d'avoir un meilleur partage réciproque, d'ailleurs, des données sur les places de stationnement pour qu'on puisse avoir une meilleure circulation, une meilleure fluidité des logistiques. Au niveau des règles intercommunales dont vous parliez, écoutez, nous, on avait été missionnés par le ministre Christophe Béchu au sujet des zones à faible émission. Qui, évidemment, comme vous le savez tous, prévoyait une restriction progressive de l'accès au centre-ville liée aux véhicules. Quand on a fait le travail très précis d'identification de toutes les ZFE qui étaient en cours, on a identifié 250 dérogations différentes. Parfois, entre Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, on avait la même intention de dérogation, mais c'était écrit d'une manière différente et les effets n'étaient pas les mêmes pour les transporteurs. Un semi de transport frigorifique qui pouvait rentrer dans une ville mais qui ne pouvait pas rentrer dans l'autre ville. Et donc ça, il est évident que pour des transporteurs dont le métier c'est de se déplacer, on a un problème opérationnel. Et donc il faut qu'on arrive aussi à articuler les échelles pour nos adhérents. Donc on a un comité national au sein duquel que TLF co-anime, hein, avec les représentants des collectivités locales au niveau national. Mais c'est important qu'on ait un local pour prendre en compte les attentes des concitoyens au niveau local, mais aussi qu'on ait en permanence cette espèce de socle commun qui fait que nos entreprises peuvent travailler Alors que nos entreprises, déjà, elles pensent plutôt Europe que plutôt France. Donc,
ça
niveau
veut
local,
dire peut-être un référent ou en tout cas quelqu'un qui peut, au sein de l'intercommunalité, deux territoires qui se touchent.
Voilà, et puis avec des organisations de représentants, peut-être avec l'Association des Écomères, avec France Urbaine, avec l'AMF, qu'on trouve ces moyens d'en permanence faire ce lien entre ce qui peut se décider dans les territoires pour partager des bonnes pratiques, ce qui fonctionne et est efficace pour les transporteurs et pour les logisticiens.
Et peut-être la dernière proposition, est-ce que c'est utile ? Parce qu'on sait que à chaque... Ça, c'est pour tous les maires qui sont présents et qui vont devoir choisir les délégations de leurs futurs adjoints. Est-ce que c'est utile de confier, par exemple, transport et logistique à un adjoint ? Vous avez besoin, vous ?
Alors, ce dont on a besoin, c'est d'avoir un dialogue. Si ce dialogue-là, il est embarqué dans l'aspect économique, dans l'aspect transport... à la limite, évidemment, vous faites en fonction de vos moyens et de votre organisation, mais ce qui est, et qu'il soit dans un dialogue permanent. On le disait tout à l'heure, les élus et les services ne peuvent pas connaître l'intégralité des subtilités opérationnelles des évolutions qui sont en cours. Donc, on ait ce dialogue permanent. Après, que ce soit au niveau du développement économique, au niveau du transport, au niveau du commerce. Donc, l'important, c'est d'avoir un interlocuteur qui soit permanent et qui soit dédié.
Merci en tout cas pour ces éclairages. Vous allez retrouver sur un certain nombre de documentations des écomères, un certain nombre de propositions, notamment pour ceux qui veulent se lancer dans leur rénovation des règles d'urbanisme, des propositions sur adaptation, logistique, transport et quelques autres sujets. Monsieur le Président.
Alors, on a entendu beaucoup de choses intéressantes, notamment dans le dernier propos, là, et sur la question de l'harmonisation. Oui, c'est clair qu'il faut qu'il y ait cette harmonisation. Et en même temps, c'est un peu par provocation, vous dire parallèlement, on demande plus de décentralisation. Et ça peut être effectivement contradictoire, mais il faut se mettre à la place des professionnels qui ont des cahiers des charges compliqués, des réglementations qui, elles, sont très précises, des temps de repos, etc., etc. Et puis, la nécessité de faire tourner. Bon, une entreprise, il faut qu'elle gagne des sous. Si elle ne gagne pas de sous, elle disparaît, hein, c'est clair. Bon, alors, harmoniser tout ça, ça ne va pas être si simple que ça. Maintenant, je ne voudrais pas freiner les ardeurs hein, de nos collègues, mais d'abord, sur le plan urbanisme, réglementation, vous entendez qu'on a actuellement sur les normes. Les règles qu'on se fixe en matière d'urbanisme, plus on est strict, plus on définit, plus on a de normes. Plus on a de normes, plus on va avoir forcément de contradictions avec la norme. Parce que dans la vie, si la norme elle n'est pas, disons, mesurée, pensée, réfléchie, elle est forcément en conflit avec les usages et les pratiques. Ça se voit partout. Hein. Regardez d'ailleurs dans nos villes, on voit partout des panneaux... pas plus de 3,5 tonnes de circulation. Des fois, on met à 6,5 tonnes. Comment est-ce respecté ? Ce n'est pas du tout respecté. À la volée, de temps en temps, la police met un procès par-ci, par-là. Ce n'est pas respecté parce que, vous voyez bien que c'est en complète contradiction avec les usages pour la logistique. Et je ne dis pas qu'il faut encourager. Hein. Attention, hein, ce n'est pas ça. Mais voilà, c'est le genre de difficultés qu'on va avoir. Et puis surtout... je ne voudrais pas être encore une fois un oiseau de mauvais augure, mais il y a actuellement un débat et l'État sur les relations financières. Alors, en ce qui concerne les relations financières, elles se sont dégradées il y a déjà quelques années et ça va s'accentuer. Et donc, les collectivités locales vont subir de plein fouet les mesures restrictives qui sont dans le projet de budget, donc de loi de finances pour la France cette année, avec une accentuation. Une industrielle vont se retrouver très pénalisées au niveau de leur dotation. À partir du moment où vous avez moins de dotation, moins donc de financement, eh bien évidemment, vous allez avoir moins de réalisation. Donc il faut être encore plus malin, plus intelligent pour choisir les investissements qui ne coûtent pas très cher et qui sont très intelligents et très faciles à mettre en œuvre. C'est la numérisation de nos places de stationnement avec l'affichage des nombres de places disponibles. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut faire malgré la disette budgétaire que nous promet la loi de finances pour 2026. Et c'est parce que quand on arrive à mieux gérer le parc de places disponibles, bien effectivement, on peut arriver à mieux gérer le flux. Voilà, c'est des choses très concrètes de ce type-là qu'on va retrouver dans le programme, dans le manifeste que les écomères vont produire. Et vous pourrez vous référer à ce document qui sera indicatif, hein, ce n'est pas du tout impératif, mais un peu piocher et puis prendre ce qui vous paraît correspondre le mieux au territoire dans lequel vous êtes et à l'intention que vous avez en tant que candidat pour améliorer les conditions de vie de vos compatriotes et par là même de nos compatriotes.
Merci, merci Monsieur le Président. Merci, on peut applaudir nos trois intervenants. Alors moi j'ai retenu qu'on avait une invitation à aller en Guadeloupe pour voir sur le terrain si tout ça fonctionne bien, mais qu'on ne peut pas aller jusqu'à la plage en voiture. Voilà, j'ai retenu l'essentiel. Et puis on rappelle peut-être vos propositions et surtout vos coordonnées pour ceux qui sur le terrain voudraient joindre un article. Les coordonnées sont sur le document, j'imagine. Merci Monsieur Poncelet, merci Monsieur le Président. C'est toujours très court comme format. On vous invite à venir voir nos intervenants et puis à retrouver les écomères sur leur stand C39. Merci à vous.